Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du Local, votre quotidienne sur l'autre radio tout l'été, avec notre feuilleton tout au long de la semaine, mais aussi des rubriques à retrouver chaque jour. Et le mardi, vous avez de la chance, on partage un coup de cœur parmi tout ce qu'on a repéré cet été. Aujourd'hui, cap à la cale à Mayenne qui s'anime pour le deuxième été consécutif. Après une première édition test le long de la rivière, retour sur cette programmation qui animera le bar d'été. Cet été, donc 2022, avec Maëva Conan, chargée de communication à la mairie de Mayenne, elle répond aux questions d'Andy.
La première année, ça a été complètement un test, on peut l'appeler comme ça. C'était vraiment la volonté donc, de la nouvelle équipe d'élus de lancer voilà, un nouveau lieu de vie sur la cale, en plein cœur du centre-ville. C'est un peu le lieu qui réunit voilà, les deux parties du centre-ville de Mayenne. Donc voilà, c'était vraiment un test. C'est un test qui a été réussi. Le public était au rendez-vous malgré le Covid, malgré la météo qui a été très capricieuse. Donc test réussi. Donc c'est pour ça qu'on repart en 2022 sur une nouvelle année de la cale. En fait, le but de ce lieu, c'est d'offrir des concerts gratuits, offrir un lieu de vie où on peut venir grignoter, boire un verre en famille, entre amis. Pour la partie bar. Tous les jeudis soirs, le bar sera tenu par les bars de Mayenne. Tout le monde passe à tour de rôle parmi les volontaires, parmi les bars mayennais. Tout le monde va passer à tour de rôle sur la cale. Sinon, en dehors de ces temps-là, c'est l'office de tourisme et la ville de Mayenne qui tiennent un bar qui propose essentiellement des produits locaux également, avec notamment des glaces. Cette année, c'est la nouveauté. Et ça, on est ouvert du jeudi au dimanche. En fait, c'était jusqu'alors un lieu qui n'était pas exploité du tout dans la ville de Mayenne. On ne proposait rien sur les bords de l'eau, alors qu'on a cette chance incroyable d'avoir la Mayenne qui passe en plein cœur du centre-ville. Donc la volonté des élus, c'était vraiment d'exploiter ce lieu un peu hors du commun, hyper bucolique, avec une vue incroyable sur le château et sur la basilique. Voilà, et qui réunit en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les deux parties du centre-ville, qui est vraiment centrale et qui permet en fait à tout le monde de se retrouver hyper facilement. On a un parking à deux pas du lieu, donc voilà, c'est vraiment très 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 accessible et c'est la situation stratégique en plein cœur du centre-ville. Donc on a sept soirées d'organiser, donc des concerts tous les jeudis soirs du mois de juillet. Et un dernier concert le samedi soir, le 3 septembre, avec l'Orchestre Génération. Le 28 juillet, on a une boom pour les enfants sur du hip-hop et du beatbox. Et ensuite, c'est Arnaud Le Dauphin avec un trio de musiciens. Une programmation quasiment que mayennaise, avec que des artistes mayennais. C'était une volonté de programmer uniquement des artistes mayennais. Pour mettre en avant la richesse artistique du territoire. Voilà, ça c'était un souhait. Donc on a essayé de remplir la mission programmation mayennaise. Voilà. Et puis c'est aussi un lieu où on peut venir voir un film, parce qu'on va avoir une séance de cinéma en plein air avec un marché de producteurs locaux. Donc le film programmé est Notre-Dame de Valérie Donzelli. C'est l'histoire d'une architecte qui remporte un concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Et du coup, il y a toute une histoire autour d'un amour de jeunesse qui ressurgit et son histoire à elle de famille. Voilà. Malheureusement, le sport, c'est un peu compliqué à programmer sur la cale parce que notre sol est pavé et pas droit et très dangereux pour la pratique sportive. Donc malheureusement, on avait tenté le yoga l'année dernière et c'était pas idéal. Donc cette année on se contente des concerts. Il y a une exposition aussi qui nous a été offerte par l'Office de Tourisme Vallée de Haute-Mayenne. Et puis il y a les possibles qui viennent aussi prendre possession du lieu avec leur public sur des vendredis après-midi. On a la médiathèque qui vient aussi lire des contes. Donc voilà, c'est vraiment un lieu d'animation pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, avec plein de rendez-vous différents. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Et la programmation complète est à retrouver sur le site de Mayenne Tourisme. Je vous le disais au début de cette émission, une constante de cet été, c'est le feuilleton, décliné en 5 petits épisodes tout au long de cette semaine. Mieux qu'Indiana Jones et d'autres figures du 7e art, on vous propose de découvrir le quotidien d'un chantier de fouilles archéologiques à Jublin. C'est le 9e été qu'une campagne de fouilles est organisée dans cette capitale antique. Alors, que fait-on très concrètement sur ce chantier ? Réponse avec Anne Boquet, archéologue du département de la Mayenne.
On démarre du haut, si vous voulez, en 2010, quand on a ouvert le chantier, on était au niveau d'arase des maçonneries, donc tout en haut, et tout a été fouillé à la main. Donc on y va progressivement, petit à petit, et les zones se définissent assez facilement, parce que vous voyez, quand on a des murs, des beaux murs comme ça, et des gros niveaux de remblais, c'est assez facile à comprendre. En revanche, la zone qui est un peu plus complexe, c'est une zone avec des sédiments assez fins, gris, qu'on a du mal à suivre. En archéologie, on suit les couches, donc qu'on a du mal à suivre, à caractériser, etc. Et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît normalement des rues. Normalement, une rue, l'époque antique, c'est une grosse sédimentation très épaisse, avec des niveaux très durs, qu'on met les uns sur les autres pour qu'on assoie vraiment une circulation. Or là, on n'a pas du tout ça et on a quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que la fouille, elle est un peu plus compliquée et elle est aussi scientifiquement plus intéressante. On essaye de fouiller au mieux, c'est-à-dire de fouiller la fouille stratigraphique, c'est vraiment de fouiller les couches les unes après les autres. J'aime bien cette image que j'emploie volontiers, c'est que l'archéologie, les archéologues, c'est comme s'ils ouvraient le livre d'histoire à la dernière page et qu'ils tournaient les pages à l'inverse pour revenir à la première page. Donc là, c'est ça, on descend petit à petit et on fouille, on essaye de comprendre les couches, de noter les relations, d'enregistrer tout ce qu'on découvre. On essaye d'interpréter ensuite. Nous sommes donc trois salariés, trois archéologues professionnels qui encadrons ce chantier avec une quinzaine de bénévoles. Donc ici aussi, c'est un lieu de formation pour les jeunes qui se destinent à être archéologues. Donc des journées de fouilles sont des journées normales, de 8h30 à 12h30, de 2h à 6h, rythmées par des moments évidemment de repas et de convivialité, on va dire. Et sinon, on est trois, donc on essaye de suivre l'ensemble des secteurs et d'accompagner les jeunes archéologues, les jeunes bénévoles, en leur disant ce qu'ils ont à faire dans telle zone. Donc on essaye de leur expliquer, écoute, voilà, là tu as un mur, là tu vois, tu as une couche de telle couleur, cette couche, a priori, elle fait à peu près telle épaisseur, il faut l'enlever, il faut utiliser tel instrument, donc est-ce qu'il faut utiliser un piochon, est-ce qu'il faut utiliser une truelle, est-ce qu'il faut, voilà. Alors on utilise essentiellement, l'outil de l'archéologue c'est une truelle, c'est pas une truelle de maçon, c'est une truelle beaucoup plus petite, c'est une truelle spéciale archéologue. Et puis sinon on utilise beaucoup des pelles et des pioches, parce qu'il y a ces gros niveaux de remblais, on les enlève à la pelle et à la pioche. Balai, parce que vous voyez que les zones doivent toujours être assez propres pour comprendre. C'est-à-dire, si on veut bien voir les successions de couches les unes sur les autres, il faut vraiment que les zones soient bien propres, bien nettoyées. Donc, on a des balais et voilà, sinon des seaux pour évacuer les sédiments. Donc, voilà, et on leur explique ce qu'ils ont à faire. On les corrige sur leur position, sur les gestes, sur le balai, etc. Et puis, on essaye de leur apprendre aussi des techniques de relevé, par exemple, de dessin, puisqu'on dessine tout à la main. Donc il faut qu'ils acquièrent les bases de la discipline et qu'ils sachent aussi à peu près relever. Donc, alors même s'ils restent ici 15 jours, 3 semaines, minimum 3 semaines en général, ils ne repartent pas en étant archéologues. Ils repartent en ayant des notions, des méthodes d'archéologie et ils continuent leur formation ici ou ailleurs. On accueille beaucoup d'étudiants, certains qui sont en première année et donc qui viennent valider leur première année donc de licence et à qui les universités imposent des stages, évidemment, au minimum 3-4 semaines chaque année, pour que justement ils découvrent la méthode sur le terrain et qu'ils se frottent aussi à la réalité du terrain, parce qu'il y a ce qu'on apprend dans les livres, ce qu'on voit au cinéma, et puis il y a la vraie vie d'un archéologue, et donc il faut vraiment qu'ils viennent voir, qu'ils viennent expérimenter ça. Il y a des étudiants débutants, il y a des étudiants confirmés, et puis il y a des gens qui ne font pas du tout leur métier d'archéologue et qui aiment fouiller et qui ont plaisir à revenir ici chaque année parce que c'est un peu une passion pour eux. C'est un moment un peu privilégié.
Demain, on s'intéressera à l'après-chantier de fouille. Une fois que toutes les découvertes ont été répertoriées, que se passe-t-il ? Eh bien, il va falloir être patient puisqu'on en parle dans notre épisode de demain. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un nouvel agité du local. Pas du tout, une nouvelle estivale du local, évidemment, sur l'autre radio, toujours à 7h30 et 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.